Envie d'Italie. En français?
Voglia d'Italia.
Pour voir l'Italie autrement, d'ici.
Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle usciate tanto per fare, contenti di vederle cervellare.
Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris, pluriel, 106.3 FM.
I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, salivano su con noi nella vettura, felici correvamo in via Chadè, strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio vedere, cercando sotto i piedi un asse e un sasso, per non sporcar di sangue gli scarponi. Venite, vedete la macchina girare, dal ricco ammirate la testa via volare.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Envie d'Italie, vous êtes à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, comme tous les premiers du mois, lundi du mois donc, avec Envie d'Italie. Bonsoir à Margherita en studio avec moi ce soir.
Bonsoir.
Et à nos collègues Irène et Véronica qui ont préparé avec nous cette nouvelle émission et qui nous suivent de loin ce soir. Donc lors de notre dernière émission, nous avons beaucoup parlé de la loi 180, dite loi Basaglia, grâce à laquelle les hôpitaux psychiatriques ont été fermés en Italie dans un long processus duré tout au long des années 70 et 80. Le monde de l'enfermement et des privations de liberté a reçu une leçon importante de la part de cette réforme, à la fois psychiatrique et politique, qui était à l'avant-garde en Europe. Malheureusement, la loi 180 ne concernait pas une autre institution totale, celle des hôpitaux psychiatriques judiciaires, dont nous allons parler aujourd'hui. Ce sont des lieux à mi-chemin entre prison et asile, où sont encore enfermées aujourd'hui 1500 personnes en Italie, dans des conditions effrayantes. Nous parlerons de cette situation avec l'un des porte-parole de la campagne Stop OPJ, Stop aux hôpitaux psychiatriques judiciaires, qui œuvre pour la fermeture des hôpitaux psychiatriques judiciaires. Nous avons aussi rencontré Silvana Crescini, artiste plasticienne, qui a fondé il y a plus de 10 ans un atelier de pratique artistique dans l'un des hôpitaux psychiatriques judiciaires dont on vient de parler, celui de Castiglion delle Stiviere en Lombardie, le seul en Italie à avoir une section féminine. Et pour conclure, avec une note positive, nous allons découvrir un lieu spécial et précieux qui se trouve à Turin, le café Basaglia. Un de ses fondateurs, Ugo Zamburro, et un des membres de l'équipe, nous parlerons de l'aventure humaine qui est au cœur de leur projet.
Selon Pepe Dall'Acqua, que nous avons rencontré lors de la dernière émission, les hôpitaux psychiatriques judiciaires sont les derniers remparts du vieux système social qui tend à séparer complètement les personnes atteintes des troubles mentaux du reste de la société. Réussir à les fermer signifie mener à bon terme le processus d'ouverture entamé il y a 40 ans avec la loi Basaglia pour l'intégration des malades mentaux dans la société. Les hôpitaux psychiatriques judiciaires, ce sont des lieux délabrés, non adaptés aux besoins de la personne. On estime par exemple que 60% des détenus patients n'est plus considéré dangereux pour la société et pourrait sortir. Cependant, encore peu nombreux sont les structures territoriales qui pourraient faire d'intermédiaire entre la sortie de l'hôpital psychiatrique judiciaire et la vie en dehors. Une telle coordination permettrait d'accueillir les gens, les accompagner et les aider à recommencer à vivre. En gros, travailler sur la réhabilitation et la réhabilitation dans le tissu social. Sauf dans certains cas. Sur les territoires, existent des réalités virtueuses, animées par des personnes qui, par leur travail, font en sorte que l'esprit de la loi Basaglia, une loi qui est un exemple de civilité, reste vif. En avril 2011, un groupe important d'associations de la société civile, parmi lesquelles Antigone, Forum Salute Mentale, A Buon Diritto, Psichiatria Democratica et le syndicat CGIL, ont lancé une campagne pour la fermeture des hôpitaux psychiatriques judiciaires. Nous avons rencontré Stefano Cecconi, une des porte-paroles de la campagne qui nous a aidés à décrypter et comprendre cette réalité méconnue. Et les actes qui travaillent pour le changement, nous allons les écouter.
Alors, bonjour Stefano Cecconi, la responsable politique de la santé de la CGIL nationale.
Bonjour Stefano Cecconi, vous êtes le responsable des politiques de la santé auprès du syndicat national CGIL et vous faites partie du comité promoteur de la campagne Stop OPJ, Stop aux hôpitaux psychiatriques judiciaires. Nous savons qu'en Italie, encore aujourd'hui, il y a 6 hôpitaux psychiatriques judiciaires qui étaient connus à une époque comme des asiles criminels. Ils ont été définis comme des monstres à deux têtes, à la fois hôpital et prison. Nous parlons à un public français qui peut-être connaît peu le contexte. Pourriez-vous nous expliquer ce qui est un hôpital psychiatrique judiciaire aujourd'hui en Italie?
Un hôpital psychiatrique judiciaire aujourd'hui en Italie.
C'est une prison, à moitié prison, à moitié asile. C'est un lieu de réclusion pour personnes atteintes de troubles mentaux qui ont été déclarées incapables d'entendre et de vouloir et jugées socialement dangereuses. Et elles ne sont pas punies avec un enfermement dans une simple prison, mais elles sont envoyées dans ce type de structure qui sont, comme on le disait, à moitié une prison et à moitié un asile. Il faut rappeler ici qu'en Italie, depuis 1978, les hôpitaux psychiatriques civils ont été fermés grâce à la loi Basaglia. Les
psychiatres civils ont été abolis grâce à la loi Basaglia.
Mais depuis, ils n'ont pas été fermés, ces 6 monstres à deux têtes, moitié prison, moitié asile. Lieux dans lesquels ils sont enfermés encore 1500 personnes aujourd'hui en Italie. Quelles sont justement les conditions de vie des patients aujourd'hui, qui est d'ailleurs une des choses que vous dénoncez dans votre campagne? Oui, les conditions de vie, c'est en effet la partie la plus visible et la plus affreuse humainement, au moins dans 4 de ces instituts. Les lieux sont dégradés, il y a beaucoup de promiscuité. Ce sont d'ailleurs des conditions existantes aussi dans la plupart des normales prisons italiennes. Donc les conditions de vie dans ces lieux de réclusion sont vraiment effrayantes. Nous avons fait plusieurs visites dans ces lieux. Il y a eu une commission d'enquête de la part du Sénat de la République, mené par le sénateur Marino, qui a fait un travail très important de dénonciation et tout simplement de révélation de ces conditions inhumaines et de l'aspect le plus dérangeant, parce qu'au final, il s'agit de malades et non seulement de détenus. Déjà, chez les détenus, les conditions sont inhumaines, mais ici, on parle de gens qui devraient être soignés, non seulement incarcéré. Le problème, c'est que le trouble mental produit des comportements réactifs très forts et la solution dans ce type de lieu est toujours la contention. Donc on ligote une personne aux mains et aux pieds sur un lit dans des conditions que vous pouvez imaginer, simplement parce qu'elle réagit à cause de son trouble mental.
Et d'un point de vue législatif,
il y a déjà eu des décisions de la Cour constitutionnelle qui disent que la dangerosité sociale ne peut pas être définie une fois et pour toutes. Faisons donc un exemple concret. Une personne coupable d'un délit et jugée incapable d'entendre de vouloir est aujourd'hui automatiquement enfermée dans un hôpital psychiatrique judiciaire.
D'abord,
le juge fait faire une expertise par des psychiatres qui doivent déclarer l'incapacité mentale ou pas de la personne, et donc s'il est coupable du fait, ou si c'est la maladie, et c'est ça qui est incroyable, qui est responsable de ce qui est arrivé. Mais il faut une autre condition qui est d'être socialement dangereux. S'il y a ces deux conditions réunies, incapacité pour infirmité mentale et en même temps dangerosité sociale, dans ce cas-là, il est interné pour une durée qui peut aller jusqu'à 10 ans selon la gravité de ce qui a été commis. En réalité, tout le monde le sait, ces incarcérations se transforment presque toujours en ce que l'on appelle des perpétuités blanches, car la peine est reportée à chaque fois que ces personnes auraient le droit de sortir, parce qu'ils ne trouvent pas dans le territoire des structures d'accueil. Et cela suffit, même sans dangerosité à ce moment-là, à rester enfermé à vie.
Anche in assenza di pericolosità sociale a quel punto lì, per rimanere internati a vita. E teniamo conto che circa metà degli internati, dei 1500, hanno commesso reati minori.
Il faut tenir compte du fait que la moitié des 1500 infirmés ont commis des délits mineurs. On ne parle que très rarement d'homicides, de viols. La grande majorité d'entre eux n'a commis que des délits mineurs. Par exemple, une personne qui a perdu en jouant aux machines du casino et qui s'en est prise à la machine en la cassant. Ou une autre personne que j'ai vue qui a secoué un gendarme. Un autre qui s'est déguisé en femme devant une école. Nous avons énormément de ce type de cas. Ce qui est touchant, c'est que dans le système actuel, on ne prévoit pas la fin de la peine, puisqu'il y a une formule qui dit au moins 2 ans de peine, au moins 5 ans, au moins 10 ans, et des prolongements de peine sont donnés presque automatiquement. Le problème, c'est que beaucoup de ces personnes devraient pouvoir sortir, mais qu'est-ce qui rend cela impossible ?
Però il territorio, cioè cos'è che fa sì che questa proroga sia messa in atto?
Il y a plusieurs facteurs. Déjà la législation à la base qui confère au juge un pouvoir immense. Si une personne a terminé sa peine en hôpital psychiatrique judiciaire, on comprend mal pourquoi elle est contrainte à l'enfermement au lieu de contraindre l'État et ses services publics à l'assister en dehors de la prison. Après, il y a le manque de capacité, de volonté et de force de notre système social à s'occuper de ces personnes qui ont une vie difficile.
Di farsi carico di persone che hanno una vita difficile e sono, come si dice con un termine bruttissimo, casi molto complicati. Però sono persone e quindi i servizi sociali.
Mais ce sont des personnes. Donc les services sanitaires et sociaux spécifiques, qu'on appelle les départements de santé mentale, sont les premiers responsables de leur prise en charge et il faut qu'ils assument toutes leurs responsabilités. Notre expérience nous dit qu'il est possible. Plusieurs centres de santé mentale en Italie, dans certaines régions, s'organisent et prennent en charge les personnes très difficiles à la place de l'hôpital psychiatrique judiciaire.
Si fanno carico e organizzano l'alternativa all'OPG per persone in condizioni molto difficili. Succede, ci sono cioè pratiche che dimostrano che è possibile.
Il y a donc plusieurs cas qui nous montrent que c'est possible, mais cela nécessite une grande volonté, le dépassement de certains préjugés, et surtout c'est un choix politique. Il faut que les collectivités territoriales, les communes, les régions, aient les idées claires sur la société qu'ils veulent construire.
Quale società vogliamo costruire? È la vita normale.
C'est une vie normale qui donne une chance de récupération à ces personnes en difficulté. Ce n'est sûrement pas l'institution totale, l'enfermement, ni l'exclusion. En Italie, depuis longtemps, un choix a été fait. Ce ne sont pas les asiles, les lieux appropriés à soigner les personnes avec troubles mentaux. Il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous pourrait avoir un jour des problèmes au niveau psychiatrique. Et j'imagine que personne d'entre nous pourrait souhaiter de se retrouver enfermé dans une prison psychiatrique, en conditions inhumaines et sans le traitement adapté pour être soigné. Donc le problème est de définir quelle idée de société nous avons. S'il s'agit d'une société qui sépare et exclut ceux qui ont des problèmes, d'une part, ou alors, quelles sont les réponses positives que l'on peut donner? À ce propos, quelles sont vos demandes et vos propositions en tant que comité pour la fermeture des hôpitaux psychiatriques judiciaires? La situation semble favorable. Le problème, c'est de réaliser les choses.
Dovrebbe essere favorevole. Il problema è realizzare le cose. Allora, La
législation italienne a déjà prévu la fermeture des hôpitaux psychiatriques judiciaires. Les lois existent, mais elles n'ont pas été appliquées.
Et quindi Stop OPG, il nostro comitato, sta agendo su due fronti.
Donc nous agissons sur deux fronts. Auprès du gouvernement national, d'une part, pour qu'il fasse appliquer les lois qu'il a approuvées, en destinant des financements pour le transport des malades dans d'autres structures.
Et provveda al trasferimento degli internati in altre strutture e nei confronti delle singole regioni italiane.
Et auprès de chaque région. Par exemple, à partir du 26 janvier, nous avons lancé la campagne Un visage, un nom dans toutes les régions italiennes, où à chaque interné sera restituée une sorte de carte d'identité qui sera donnée aux responsables de chaque région et qui leur signalera combien de personnes dans leur région doivent être assistées et soignées dans leur territoire.
Quanti sono gli internati della loro regione che devono essere curati e assistiti in quel territorio?
Donc c'est une campagne qui veut faire appliquer des lois qui existent déjà.
Applicare le norme che già esistono.
Ci sono appunto tutto un gruppo di associazioni della società civile che fanno parte del vostro comitato.
Avec cette campagne, vous et les autres membres du comité Stop Hôpital Psychiatrique Judiciaire, vous êtes amenés à beaucoup vous déplacer en Italie pour faire connaître votre démarche. Quelles sont les réactions des gens dans les rues? Vous pensez qu'il y ait un changement sur la conception qu'ont les gens du malade mental aujourd'hui, de sa dangerosité et de son exclusion?
C'è un cambiamento sulla visione del malato mentale, della pericolosità del malato, dell'esclusione.
Sicuramente noi la chiamiamo così la legge Basaglia, cioè la riforma che ha chiuso i manicomi.
Sûrement la loi Basaglia a beaucoup touché la culture et le ressenti de beaucoup d'Italiens.
Il sentire profondo di moltissimi italiani. Nel nostro paese sicuramente permangono stigmi.
Dans notre pays reste sûrement beaucoup de préjugés. Il y a une tendance à associer crime, maladie mentale et asile. Mais l'enquête du sénateur Marino a beaucoup circulé, aussi dans les journaux télévisés, et elle a su éveiller une vraie indignation dans l'opinion publique italienne.
Anche arrivati nei telegiornali, in televisione, ha suscitato una grande eco, una grande indignazione. E anche quando noi giriamo per le scuole.
Et quand on va voir des écoles, des villes, on a des retours très beaux et très importants. Mais il reste beaucoup de travail à faire, car ces dernières années ont créé une culture qui a tendance à voir dans l'autre, dans ce qui est différent de nous, l'immigré autant que le malade mental, un problème à isoler et à exclure plutôt qu'à affronter.
A identificare nell'altro, nel diverso, nell'immigrato piuttosto che appunto nel malato di mente, insomma un problema più da escludere che non da affrontare.
Lei parlava dell'emendamento presentato.
Vous parliez tout à l'heure d'un amendement présenté entre autres par Ignazio Marino qui a fixé la date limite de fermeture des hôpitaux psychiatriques judiciaires à mars 2013. Mais cela semble assez difficile à tenir. Vous pensez que ça sera possible?
Sembra un traguardo ancora molto lontano. Lei pensa che le cose si smuoveranno prima, speriamo?
Ma noi stiamo lavorando per questo. Poi che cosa succederà?
Eh bien, nous travaillons pour ça. Je suis convaincu qu'il y ait les conditions. Mais il faut du courage aussi, le même qu'il y a eu pour la création de la loi Basaglia. Il faut se rappeler qu'entre l'approbation de la loi en 1978 et la fermeture du dernier asile, ils sont passés 12 ans.
Sono passati 12 anni. È nella fattibilità. Ci vuole una scelta, una forte.
C'est faisable donc, mais il faut un choix politique fort. C'est une décision qui doit être prise pour rendre civil notre pays. Et cela peut être fait rapidement, car en Italie existe déjà des centaines de structures locales de santé mentale qui peuvent être mieux utilisées, comme plusieurs expériences le démontrent.
Importante, insomma.
Però sicuramente rimane comunque un problema di fondi, perché.
Mais il reste un problème de financement. C'est un problème qui touche tout l'État social italien. On entend dire que c'est la crise, l'austérité, les restrictions budgétaires. Vous pensez que l'argent sera trouvé?
Questi fondi per comunque dare le cure giuste a queste persone saranno trovati?
Ma in parte sono già stati trovati appunto nell'emendamento Marino.
En partie, l'argent a déjà été trouvé, comme spécifié dans l'amendement du Sénat. Une partie des ressources sont d'ailleurs liées à la conversion ou à la vente du patrimoine immobilier des hôpitaux psychiatriques judiciaires. En partie, il s'agit de choix. Évidemment, en temps de crise, il faut qu'un État fasse des choix pour affronter les problèmes et payer la fameuse dette publique. Cela dépend si l'état social est simplement considéré comme un coût pour l'état ou alors s'il est plutôt considéré comme un investissement. Et cela implique de faire des choix.
Oppure se è considerato un investimento e questo implica fare delle scelte. Ha senso mantenere in attività, per esempio?
Par exemple, vaut-il la peine de maintenir en vie des grandes structures hospitalières qui fonctionnent mal quand il y aurait besoin de développer plutôt un service sanitaire de proximité? L'intervention à domicile, une réponse plus souple et adaptée, moins visible sûrement qu'un grand hôpital qui amène des voix aux puissants locaux.
Une risposta più flessibile, più adatta e forse meno visibile di un ospedale che porta voti magari a qualche potentato locale o una rete diffusa di servizi che invece può dare risposte.
Ou un réseau local de services qui peut apporter des meilleures réponses aux citoyens. C'est d'ailleurs la recommandation qui fait l'OMF à tous les pays membres, sachant aussi que la santé mentale est en train de devenir le premier risque sanitaire aujourd'hui.
Quindi anche questo deve far riflettere.
Assolutamente. Direi che abbiamo...
Bah, je dirais que nous avons amplement approfondi le sujet. Nous restons très attentifs d'ici aux évolutions de votre campagne et espérons pouvoir vous recontacter d'ici quelques mois pour parler des changements en acte.
Et in caso ci piacerebbe potervi anche ricontattare per avere, fare un po' il punto con voi dei cambiamenti in atto. Quindi la ringraziamo tantissimo.
À bientôt donc pour des nouvelles positives, comme on espère, concernant la fermeture des hôpitaux psychiatriques judiciaires.
Rispetto a questa situazione.
Spero anch'io tanto. Grazie a voi. À bientôt alors.
Bonsoir. Vous êtes toujours à l'écoute de Envie d'Italie sur Fréquence Paris Pluriel. Il est intéressant de revenir peut-être sur un point que notre intervenant Stefano Cecconi vient d'évoquer concernant les choix budgétaires qu'un État doit faire en temps de crise. On discutait avec lui pendant l'interview du fait que tout récemment, il y a eu une grande polémique concernant l'achat de 131 avions militaires pour la modique somme de 20 milliards d'euros. Alors c'est difficile à imaginer, mais c'est un chiffre énorme en temps de restrictions budgétaires qu'on nous impose à cause surtout de cette fameuse dette. Nous revendrons sûrement sur ces arguments dans une prochaine émission, entre autres aussi... un scandale autour du grand hôpital privé italien, le San Raffaele, qui a été au centre d'une grande polémique à cause de faits de corruption et de mauvaise gestion au cours de l'année dernière. Voilà, mais on vous promet une émission savoureuse autour de tout ça pour bientôt. Et aussi sur l'Institut Papa Giovanni XXIII à Sierra d'Aiello. Voilà, c'était juste un avant-goût. Mais maintenant, pour nous remonter un peu le moral, une pause musicale avec Il Delirio de Giorgio Gaber, tiré de l'album Liberté Obligatoria. Libertà Obligatoria, scusate. Mais on aime le titre, Liberté Obligatoire, ça nous plaît beaucoup. Album qui date de 1976 et qui a inspiré le travail du fondateur du Café Basaglia, avec qui nous parlerons tout à l'heure. Voilà Il Delirio.
Se si vivesse a lungo, non si saprebbe più dove andare per rifarsi una felicità. Ovunque abbiamo abbandonato degli aborti di felicità a marcire negli angoli delle strade. L'India è un museo di tentativi di felicità. E l'Africa, il Pakistan. Il mondo è un museo di sforzi che restano a metà, di sforzi per rendere veri i nostri slanci, le nostre gioie, i nostri amori. Cantare, cantare le lauree, le beatrici, mettere incinta le cameriere e accorgersi di aver sempre adorato a buon mercato. Bisogna essere più precisi nell'amore, nei gusti, nelle passioni, nella scelta dei posti. Sono dappertutto i nostri aborti, sparpagliati da tutte le parti, e tentiamo ancora, perché è giusto tentare
e produciamo slanci che poi buttiamo in mare e si spezzano subito e li buttiamo via e diventano aborti, aborti di allegria. E se la nostra allegria fosse un dolore straziante, solitario, in ogni strada ci sarebbe un urlo, il delirio, il delirio. Se si vivesse a lungo, non si saprebbe più come fare per rifarsi una rabbia giusta. Sì, sì, perché anche di rabbia, anche di odio, noi lasciamo troppi aborti in giro. L'Italia è un museo di tentativi di sovversione, di fermenti nuovi, di cose che nascono, che crescono. Il mondo è un museo di sforzi, di strane acrobazie, per rendere più efficace il nostro impegno, le nostre rabbie, le nostre follie. Non si può dire che manchiamo di volontà. Tentativi da tutte le parti. Una rassegna di pezzi, una fiera campionaria di cose abbozzate e messe in mostra, un pezzo d'amore, una rabbia finita male, un po' di politica, un inizio di cultura. Se tu avessi bisogno di tentativi, ce n'è per tutte le occasioni della vita, basta saper scegliere. Bisogna essere più precisi. Anche nell'odio, nell'eresia, nell'indirizzare la rabbia, la follia, la nostra impotenza, la nostra incertezza, ci limita ad odiare senza nessuna esattezza. Ci vuole un odio che rimane, non basta sapere che abbiamo cominciato bene. Le nostre ribellioni non durano molto, sono aborti di rabbia senza volto. Non è soltanto una rabbia, è già una pazzia, uno sfogo straziante, solitario. In ogni strada c'è davvero un urlo, il delirio. Il delirio è un uomo rabbioso che odia da solo, ma ormai non fa niente di male, abbaia la luna, non morde nessuno, persino il delirio diventa una cosa normale. Ho bisogno di un delirio che sia ancora più forte, ma abbia un senso di vita e non di morte. Ho bisogno di un delirio che sia ancora più forte, ma abbia un senso di vita e non di morte. Ho bisogno di un delirio che sia ancora più forte, ma abbia un senso di vita e non di morte.
Le 15 janvier 2012 a fermé ses portes l'exposition Paysages d'Anima, Paysages d'Âme. Née de la collaboration entre l'Institut Casa Grande et la mairie de Soligo, province de Trévise, l'exposition raconte les dialogues picturaux et intimes entre Silvana Crescini et 8 artistes outsiders. En fait, Silvana Crescini dirige depuis le 1990 l'atelier de peinture auprès l'hôpital psychiatrique judiciaire de Mantoue, un parmi les six en Italie. On a eu l'occasion de la rencontrer pour écouter l'histoire de son magnifique projet.
Je m'appelle Silvana Crescini. À présent, j'habite dans la province de Mantoue et je peins depuis toute petite. J'ai commencé suivant une grande passion, puis j'ai élargi mes connaissances à l'Académie des Beaux-Arts grâce aux cours d'art ancienne, des fresques et l'histoire de l'art. 1990,
je travaillais dans un bureau parce que, dans un premier temps, je ne vivais pas de mon métier d'artiste. Parallèlement à mon travail, pendant plusieurs années, je peignais et j'exposais mes œuvres. Je connaissais l'ancien directeur de l'hôpital psychiatrique de Castiglione delle Stiviere, qui, lors d'un vernissage, en regardant mes peintures et en connaissant probablement ma sensibilité à l'égard des gens malades, il me proposa d'organiser un atelier de peinture dans l'hôpital.
Quand
et comment cette expérience a commencé? L'atelier ouvre ses portes en janvier 1990. D'ailleurs, ce mois-ci, on célèbre son 21e anniversaire. À cette période, venait d'être mis en place un atelier théâtral géré par un très bon réalisateur qui avait réussi à faire interpréter aux patients des extraits théâtrales très importants. Suite au succès de cette activité culturelle, la direction m'a demandé de mettre en place un atelier expérimental de peinture.
Conoscendomi, mi ha chiesto di fare un corso sperimentale di pittura. Io quindi ho accettato così per.
J'ai accepté, animé par ma passion pour l'art, mais aussi par une sorte de curiosité. Je ne connaissais pas du tout ce monde et je vais en toute sincérité même un peu peur au point que la première fois que je suis rentrée dans l'atelier pour illustrer les cours, je me suis sentie un peu anxieuse. Devant moi, une trentaine de personnes, hommes et femmes, parce que l'hôpital psychiatrique judiciaire de Castiglione est le seul à avoir une section réservée aux femmes. Donc, tous ensemble, ils m'écoutaient avec attention. Je leur expliquais que j'aurais organisé un cours de dessin et de peinture, que je leur aurais parlé des grands maîtres de l'art. Je vis dans ces personnes un grand besoin de communiquer, d'être accueilli, écouté. Je me suis laissée aller.
Mais c'est surtout l'approche d'une donne.
Ça a été surtout l'approche d'une femme dont je me souviens très bien, qui m'a beaucoup aidée. Elle était habillée d'une manière voyante, son visage fort maquillé avait un très beau sourire, malgré un certain âge. Aurora, son prénom, me demandant le permis de lire un de ses poèmes. Moi, j'ai écouté avec attention ses beaux vers, plein d'amour, d'espoir et d'une grande joie. Cela a représenté pour moi le vrai moment d'ouverture et j'ai compris que j'aurais été très bien parmi eux. L'atelier de peinture, qui devait durer seulement quelques mois, est ouvert encore à présent. Il s'agit désormais d'une activité bien ancrée et fréquentée par les patients.
Silvana, che cosa rappresenta per i pazienti detenuti?
Qu'est-ce qui représente cet espace pour les patients? Comment ils habitent ce lieu?
Come lo vivono? Come lo abitano?
In pratica.
Bien évidemment, l'atelier représente pour eux un moment de liberté, même s'il paraît très banal de le dire car il s'agit des gens qui vivent avec le double statut de malade et de détenu.
Per queste persone che vivono nella doppia condizione di malato e di recluso, è un luogo.
D'abord, ils sont accueillis comme dans une famille. Je tiens à dire ça, car moi et les autres opérateurs, on y prend vraiment soin. Dans cet espace, on est tous pareils, tous à la même hauteur, et tous peuvent parler et manifester leurs émotions sans contrainte. Mon atelier s'inscrivait dans le cadre d'une activité artistique. Il ne s'agit pas d'art-thérapie, même si la pratique de l'art devient forcément thérapeutique, puisque l'expression de la créativité est bénéfique pour tous. Les patients sont laissés libres d'exprimer leurs sensations, leurs émotions, leurs angoisses, à l'abri d'une analyse du malaise.
Possono fare liberamente senza poi essere, diciamo, letti dal punto di vista, non so,
Bien évidemment, mon travail est utile aux médecins, puisque si je m'aperçois, par exemple, que la peinture de l'un d'entre eux montre une forte angoisse ou s'il y a un blocage dans la communication, je transmets mes observations aux thérapeutes pour qu'ils les prennent en compte.
Certo dipinto, una certa opera, magari stavano molto in silenzio, non comunicavano particolarmente, allora mi capita di dover magari dire al medico, guarda che questa persona si trova così.
E naturalmente e cela, ça s'est passé plusieurs fois, volte, e ça a été très beau de pouvoir aider à travers l'art.
Bello poter aiutare attraverso l'arte queste persone.
Quindi la creatività prende il suo posto,
donc,
trova il suo
la
posto
creatività joue son rôle.
Quelle est sa valeur? Si può raccontare?
Je voudrais tout d'abord raconter mon expérience. Quand j'ai commencé, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je n'avais jamais enseigné et j'aurais dû inventer mes activités. Au début, j'ai fait comme s'il s'agissait d'une petite académie des beaux-arts. Alors j'ai expérimenté la peinture d'après nature à travers l'explication des différentes techniques, comme s'il s'agissait d'un vrai atelier de peinture. Tout ça était très important, surtout pour moi, puisque à partir de là, j'ai compris comment il fallait intervenir, faire sortir tout ce qu'ils cachaient à l'intérieur d'eux-mêmes.
Che loro dovevano tirare fuori quello che avevano dentro, quindi diciamo il mio è diventato soprattutto un lavoro.
Mon travail est devenu un travail maïotique. Je suis bien évidemment toujours disponible à leur expliquer comment utiliser la couleur, les crayons, les pastels, toutes sortes de techniques. En outre, depuis quelques années, j'ai ajouté à ces activités des cours d'histoire de l'art, activités qui réveillent encore plus leur créativité.
Si, quindi questa esperienza possiamo dire che è proprio l'esempio che l'art fait con la sua ricchezza di contenuti, di simboli, di contenuti estetici, comunicativo, può far stare meglio la persona.
Sicuramente, io l'ho potuto notare in tantissimi.
Oui, sans aucun doute, je l'ai vu dans plusieurs cas. Pendant toutes ces années, j'ai connu plus de 300 personnes. Je pourrais donner des exemples. Certains, au départ, ne parlaient pas. Elles étaient angoissées par une grande solitude et une grande douleur. Ensuite, petit à petit, ces patients se sont laissés aller. Et ils ont trouvé dans ces moyens de communication alternatifs à les paroles une manière d'expression et de gratification personnelle. On remarque l'augmentation de l'auto-estime et en outre, la rencontre entre hommes et femmes impossible ailleurs dans l'hôpital est importante. Elle favorise la socialisation et l'amitié. On a vu naître de belles amitiés, parfois des histoires d'amour. Ça m'arrive souvent de voir un couple qui travaille côte à côte. Ces personnes peuvent nous transmettre beaucoup de choses. Sans s'en apercevoir, elles traduisent la contemporanéité d'une manière incroyable. Parfois, on peut voir dans leurs œuvres nos souffrances, nos sentiments. Lors des expositions que j'ai commencé à organiser depuis le début, il m'arrive très souvent d'apercevoir chez les spectateurs la merveille comme la gêne. Ils retrouvent dans les œuvres de mes artistes un malaise personnel.
Dai miei artisti anche dei disagi personali.
Atelier donc comme lieu de rencontre. On y retrouve vous, les passions et toutes les relations possibles. C'est l'espace des relations humaines. Voulez-vous nous raconter l'histoire d'une de ces rencontres?
Che si possono creare proprio lo spazio delle relazioni umane. Ci vuole parlare o ci vuole raccontare per esempio una storia di questi incontri?
Sì.
Il y en a beaucoup, je dois faire un choix. Ce sont des histoires qui ont laissé un souvenir très beau et toujours vif.
diciamo, dentro di me anche...
Elles ont aussi marqué ma propre créativité.
Io devo dire proprio grazie.
Moi je remercie toutes ces personnes, mes petites maîtres, puisque grâce à leur simplicité et authenticité dans l'expression de la créativité, ils m'ont appris à me laisser aller. Et dans ma dernière recherche, je suis devenue plus visionnaire, surtout dans la sculpture.
Soprattutto nella scultura più visionaria, e questo devo molto, soprattutto partendo
la rencontre peut-être la plus importante qui a laissé un souvenir indélébile pour l'affection qui est née.
Indélébile anche per l'affetto che ho avuto per questa persona è stato l'incontro con Franca Settembrini.
A été celle avec Franca Settembrini, une artiste très réputée dans le monde de l'art brut, une des plus connues en Italie.
Italiane. È stato un caso incontrarla.
J'ai rencontré Franca par hasard, je ne connaissais rien d'elle. D'après mes souvenirs, elle est arrivée l'année suivante à l'ouverture de l'atelier. On ne savait rien d'elle, car elle venait d'une réalité très triste. Elle avait passé presque toute sa vie dans des institutions psychiatriques, dont une bonne partie dans l'hôpital San Salvi de Florence. Là-bas, elle avait commencé à peindre avec Massimo Mesi, fondateur de la Tinaia. Suite à la fermeture des asiles, elle s'est retrouvée toute seule, car sans famille et sans logement. Et elle a vécu d'expédients.
Casa, così ha vissuto un po' probabilmente di espedienti, non si sa bene cosa è venuto. Fatto sta che dopo
après quelques années, elle a été logée dans une maison de retraite avec des personnes non autonomes.
Un luogo dove c'erano persone non autosufficienti. Lei che intorno
dans ces conditions, sans pouvoir exprimer sa vitalité de trentenaire, ces conditions se sont aggravées.
È stata ancora più male le sue condizioni sono regredite, c'è stata 7-8 anni.
Elle est restée là-bas environ 7-8 ans, puis, suite à une dénonciation pour vol, elle est rentrée à l'hôpital psychiatrique de Castiglione.
Comunque è arrivata all'OPG di Castiglione.
Dans un état désastreux.
Quindi, siccome c'era l'atelier e lei in uno
pendant un de ses entretiens très délirants, vu qu'elle était très malade, elle a dit qu'elle savait peindre. Le docteur alors a amené Franca à l'atelier. Elle était très en colère avec tout le monde, très sceptique. Et moi, je ne savais pas comment l'approcher. Après, j'ai quand même essayé de parler avec elle. Elle m'a bien aimée. Quand je l'ai vue peindre, j'en étais fascinée. C'est comme ça que notre amitié a commencé. Le docteur, en sachant que Franca ne pouvait jamais sortir de l'hôpital, puisque seul le monde, me demanda de la prendre avec moi à la maison pendant les fêtes de Noël. Donc ce rendez-vous s'est transformé en habitude. Si en atelier, elle restait toujours près de moi sans dessiner, jalouse de ma relation avec les autres, à la maison, elle avait envie de peindre et de le faire pour moi. Cela représentait sa seule manière de me transmettre son affection. J'ai exposé ses très belles œuvres dans le désir de me souvenir d'elle et de la voir à mes côtés pour toujours. Elle qui m'a fait tout de suite comprendre l'importance de cette créativité instinctive. Elle qui n'avait pas une culture, qui ne savait même pas ce que l'art était, alors que de ses mains sortaient des images incroyables.
Une très belle histoire des relations. Come sì, tutto passa.
Oui, j'en pourrais raconter plusieurs. Des histoires qui d'ailleurs continuent encore maintenant, même quand les patients sortent de l'hôpital. Je reste en contact avec eux et je me préoccupe toujours qu'ils n'arrêtent pas de peindre. Ça serait très grave. Moi, j'ai rencontré des artistes formidables et je tiens qu'ils poursuivent dans la pratique de la peinture. Je précise que parmi toutes les personnes rencontrées, les vrais artistes sont une minorité, mais il y en a. Et ils sont extraordinaires.
Certo, certo.
Però ci sono e sono straordinari.
Signora, signore, voy a interpretar un tema que es de loco. Vamos a hacer la balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salir de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, la raya de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y la naranja de frutero de la esquina me tira los ares. ¡Vení! Y así medio volando y medio bailando, me saco el melón para saludarte. Te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, vení, bailá, de volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochece tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente espantaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornillas con una golondrina en el motor. De viaje nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado y una niña nos dan un barcecito bailador y nos sale a saludar a la gente linda y loco. Pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de ronda así y volá. Volá conmigo ya, vení, volá, y vení. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La 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 la. Loco todo, loco, loco todo, todo. Loco, loco, loco. Loco, loca ella y loco yo.
Bon, merci beaucoup à Francesco Di Lartuso pour ce morceau magnifique, malgré les coupures que vous avez dû entendre et qui sont assez mystérieuses, on les explique pas, c'est des coupures folles, hein, pour rester dans le thème. Mais voilà, ce morceau est quand même magnifique, il nous touche. Et vous venez d'entendre donc Balada para un loco de Astor Piazzolla avec les paroles de Horacio Ferrer. C'est une chanson, une musique qui a en elle des bribes de folie dans son texte, dans sa musique, dans son interprétation. Il y a plusieurs interprétations magnifiques qu'on vous conseille d'aller voir ou qu'on vous fera entendre au fur et à mesure des émissions, si vous nous restez fidèles, n'est-ce pas ? Donc à sa sortie en 1969, ce morceau créa un vrai scandale dans le milieu du tango. Et depuis, elle a été interprétée par beaucoup d'artistes, entre autres aussi par la chanteuse italienne Milva, Milva La Rossa, dans une version italienne assez intéressante et du coup compréhensible par les non-hispanophones. D'ailleurs, nous allons mettre sur notre site, dont nous vous donnerons l'adresse tout à l'heure, le texte intégral de la chanson qui est assez touchant. Donc ce que vous venez d'entendre, c'est par contre la version de Roberto Goyeneche di El Polaco, grand chanteur de tango. Et pour rebondir sur cette touche argentine qui nous affectionnons tout particulièrement, nous allons vous parler d'une expérience qui a lieu à Turin et depuis peu aussi à Buenos Aires. C'est la création du Café Basaglia, une entreprise sociale, un bistrot, un restaurant, mais surtout un groupe de personnes, malades ou pas, qui travaillent ensemble dans un lieu magnifique et accueillant. Et pour introduire cette interview avec les fondateurs du Café Basaglia, un extrait de la fameuse Radio Colifata, une radio libre qui émet depuis l'hôpital psychiatrique Borda de Buenos Aires et où les animateurs, ce sont donc les Colifato, ces fous géniaux qui nous parlent depuis Buenos Aires. Bonne écoute.
Capitole T22, Radio La Colifata, directement de l'hôpital Borda.
Siberia tan grande, Siberia tan fría.
Sí, soy el viejo Hugo Norberto López Molera Díaz Amaya. A mí me gustaría haberme llamado Francisco y ustedes me pueden decir Pepe. Estoy acá en este día especial de arte y de poesía, de reflexiones. Manu Chao dijo que este...
Hola, una tua intervista su...
J'ai lu sulla Repubblica ton interview de l'année dernière, dans laquelle tu racontes ton expérience et tu dis, je cite, « Jusqu'à l'âge de 22 ans, j'ai vécu seul et dans l'ignorance. Il n'y avait que les amis et le foot qui m'intéressaient. Puis, j'ai commencé à écouter les chansons de Gaber et j'ai eu une crise existentielle. Je voulais donc te poser une question sur Gaber, car ça m'avait intrigué. »
C'était l'époque où il chantait « Liberté obligatoire », pour les élevages, et il savait transmettre la philosophie du point d'interrogation.
On aime ça.
Qui est quelque chose de très intéressant, car à présent, nous sommes en train de revenir à la philosophie du point d'exclamation, où tous sont sûrs de leur point de vue. Il faudrait s'inspirer aux zapatistes qui prêchaient les marchés en questionnant. Il faut avoir une colonne vertébrale, une pensée, mais après, c'est à travers la rencontre avec les personnes que ta pensée se développe, s'élargit, se modifie partiellement. Et cela parce qu'elle fait partie d'un procès. La vie doit être un procès. Et Gaber, en ce moment-là, a été pour moi une source de réflexion sur l'essence de la vie, sur les rôles. Beaucoup de gens avant lui en avaient parlé, à partir de Pirandello. Mais lui, à ce moment-là, avait trouvé la manière pour toucher les jeunes de 22 ans que j'étais.
Tu es en train de parler des rencontres, de rencontrer les gens. Et toujours dans la même interview, tu dis, je cite, que ta rencontre avec un psychiatre croate a fait évoluer ton travail. Peux-tu m'en dire un peu plus de cette rencontre?
Cela débute en 1988, quand on essayait de trouver une réponse au problème de l'alcoolisme, qui globalement n'est presque pas considéré, car il s'agit d'un problème complexe qui touche plusieurs aspects, médical, psychiatrique, neurologique, de toxicomanie, et c'est pourquoi personne ne le prend véritablement en charge. La période était meilleure du point de vue des ressources et de l'esprit des gens.
Della testa delle persone, c'è una incazzatura in giro, eccetera. Allora, con un gruppo di altri
avec un gruppo di médecins, e pas seulement, on décide de regarder autour de nous et on découvre la méthode du CAT, le club des alcooliques sous traitement, de Udolin, le psychiatre croate que tu as cité.
in cui Udolin, questo signore...
Où il affirme que l'alcoolisme n'est pas une maladie, mais un style de vie. Il crée ces groupes où l'on se retrouve pas seulement entre patients, mais aussi avec leur famille. Car le problème d'une personne, c'est le problème de tous. C'est très intéressant quand il dit que l'alcoolisme devient le prétexte pour mettre ensemble des personnes qui, dans le cas contraire, vivraient de façon indépendante l'une de l'autre. Ces gens, en étant ensemble pour chercher de résoudre collectivement un problème, comprennent combien c'est important d'être ensemble. Quand ils ont résolu le problème, ils continuent à rester ensemble, ils créent une cellule communautaire et après, ils iront dans leur communauté territoriale pour parler de ce problème avec orgueil. En se montrant non pas comme affectés par un handicap, mais en tant qu'experts d'un problème. Ils vont en parler de ce problème et témoigner de comment on peut en sortir ensemble, de façon collective. Ils vont raconter leur expérience, qui est faite d'émotions, d'un savoir différent, qui n'est pas seulement technique. Ce que j'adore, c'est quand Udolin dit que chaque fois qu'on attend, par exemple, le seuil des 10 familles, on se sépare pour faire entrer d'autres familles et ensuite on se réorganise. Et moi, j'aime cette méthode où l'on met l'individu au centre et on travaille afin que les ressources soient les personnes mêmes et leur contexte de vie. Le problème n'est pas géré que par des techniciens, mais abordé de façon collective.
Et j'imagine que tout ce processus t'a rapproché de la pensée de Basaglia.
Oui, sans aucun doute. Dès le début, je m'étais rapproché de Basaglia, car forcément j'en étais fasciné. J'ai commencé le lycée en 1968, j'ai grandi dans les mythes de la fête collective, l'île de White, Woodstock, le parc Olambro et les autres. Mais je n'avais pas vraiment compris sa pensée, car j'ai commencé mon parcours à un moment où tout allait bien. J'ai commencé à travailler au début des années 80, quand la psychiatrie c'était quelque chose d'important. On avait beaucoup de ressources. Il y avait une pensée très forte qui nous liait, c'est-à-dire celle de fermer les asiles et d'aller sur le terrain. Torino, ma ville, a été une ville pilote. En 1970, c'est-à-dire 8 ans avant la loi Basaglia, il y avait un cabinet de consultation psychiatrique où j'allais travailler en rue Paisiello. Et donc, je tenais pour acquis tout cela. Et je suivais un parcours déjà tracé par d'autres avant moi. La question de l'alcoolisme m'a obligé à réfléchir à ce qui s'est passé, à ne tenir rien pour acquis. Et surtout, pendant cette période où les modèles, les styles de pensée, la musique, la façon d'être ensemble changeaient, la pensée de Basaglia connaissait sa première crise. C'est à ce moment-là que je comprends vraiment la pensée de Basaglia. Basaglia a dit beaucoup de choses très belles. Moi, j'en voudrais citer deux. La fermeture des asiles, ce n'est pas le but, mais le chemin pour évaluer la capacité d'une communauté territoriale d'accueillir celui qui est différent. Et c'est magnifique parce que tu enlèves le mot asile et tu mets le mot CIE, centre d'identification et d'expulsion, et tu comprends quels sont les modernes asiles aujourd'hui. Ce que Basaglia disait, c'est que nous ne pouvons pas vaincre, car le pouvoir qui est trop fort gagnera toujours. Mais on peut convaincre, et quand nous convaincons, nous déterminons un changement. Et après, ce n'est plus possible de revenir à l'arrière. Ce n'est pas par hasard que la loi qui porte son nom et les mouvements contre les asiles a fonctionné. Car il est né dans une période très riche où on se battait pour les droits civils. On parlait d'avortement, du féminisme, des luttes étudiantes. En ce contexte, la psychiatrie était une partie de ces raisons. Donc la pensée de Basaglia m'est frappée quand il disait que la communauté devait être capable de garder en soi celui qui est différent. Une autre phrase magique que j'adore est « Je n'ai pas confiance dans les patients qui font tout ce que je leur dis, parce que de quelque façon, ils sont victimes des institutions. Je préfère ceux qu'on définit des rebelles, car ils m'obligent à contredire ma pensée. » en m'éloignant du risque de rester trop attaché à mes idées en les tenant pour acquises.
Si je rentre dans le café Basaglia de Turin, qu'est-ce que je vois?
Tu vois un centre beau, surtout esthétiquement beau, car je pars du fait que j'en ai marre de voir que les endroits où on travaille pour les droits humains sont horribles, des murs abîmés, nos cabinets ressemblent pour la plupart à des chiottes, car on a l'impression que ce qui importe le plus, c'est le contenu et non pas la forme. Et alors, je vous rappelle Bethlehem, un grand neuropsychiatre qui a dû s'échapper de l'Europe car il était juif. Il est arrivé aux États-Unis et il a fondé une communauté pour les enfants autistes. Il disait que n'importe quelle pathologie mentale, soit un syndrome ou simplement une petite névrose, naît d'un sentiment d'insécurité lié au fait qu'on ne se sent pas aimé et donc important. Et donc, il construisit une pièce en feuille d'or car c'était fondamental que les enfants se sentaient importants et qu'ils les voyaient de cela aussi. Alors, en paraphrasant les films de Ken Loach, Les Pins et les Roses, nous ne voulons pas seulement les pins, mais les roses aussi. Tout ça pour dire que l'endroit est beau. Il y a une belle ambiance, c'est une dimension familiale, même si c'est plutôt grand du point de vue des inscrits. On a une association, mais aussi des clients, mais aussi du point de vue des espaces. En tout, on a 400-500 mètres carrés, y compris la terrasse. Et tu vois des gens qui travaillent. Ce qui est intéressant, c'est que tu ne peux pas reconnaître le fou. On n'a pas envie de créer un jardin zoologique, ni que les gens y viennent parce qu'il y a des fous. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire beaucoup de fois, il s'agit d'un projet politique, car il s'agit d'une association qui travaille en coopération avec le territoire, en promouvant la participation. Aussi des patients qui là ne sont pas tels, mais ils sont des associés travailleurs. Il s'agit d'un projet clinique, car il se base sur la réhabilitation, un mauvais mot, c'est un mot technique en psychiatrie qui signifie acquérir à nouveau les aptitudes qu'on avait perdues à cause de la maladie, ou bien en acquérir de nouvelles pour augmenter leurs possibilités, même au niveau professionnel, en étant parmi les gens. C'est un projet esthétique, car on ne fait pas semblant de faire de la restauration. On veut que les gens reviennent car on mange bien et il y a aussi une belle ambiance. Donc sur ces bases, on y va et on découvre un très bel endroit où l'on ne comprend pas qui est fou ou pas. Du moins, on ne le remarque pas beaucoup. Bien évidemment, on ne veut pas faire de la démagogie. Toutes les personnes qui travaillent ont des diagnostics sévères. Ils ont tous schizophrènes. Mais ils sont en mesure de faire leur travail. La guérison m'intéresse relativement peu. Ce qui est important pour moi, c'est la qualité de vie. Donc, ce n'est pas grave si on continue à être un peu halluciné. Comme le dit très bien une personne qui a travaillé chez nous. Mon psychiatre dit que je suis schizophrène. Et les autres lui demandent, qu'est-ce que cela signifie d'être schizophrène? Ça veut dire que j'entends les voix. Et maintenant, tu les entends encore? Depuis que je travaille ici, je les entends un peu. Oui, je les entends toujours, mais ça me dérange moins. Quand je suis en train de faire des choses que j'aime, avec un rôle social, je gagne de l'argent, je suis avec des gens, donc mon psychiatre continue à dire que je suis schizophrène. Mais pour moi, c'est comme si j'étais guérie. Donc c'est ça que je juge important.
Et votre projet fonctionne parce que ça fait 4 ans.
Ça fait 4 ans. On a de nouvelles personnes qui travaillent. Une déjà a eu un CDI et bientôt une autre l'aura. À présent, une très petite coopérative est née, car on veut garder un certain type d'ambiance. Il y a des désaccords, car on est une entreprise sociale, et j'ai appris ce concept en Argentine, qui signifie qu'un projet social doit être soutenable du point de vue économique. Nous, heureusement, on n'a presque pas reçu de financement et on a dépensé beaucoup d'argent. Tout est né d'une action populaire, donc on ne doit rien à personne. Une coopérative, comme je disais, vient d'entrer dans la gestion car on risquait de faire faillite, même si beaucoup de gens en venaient, puisqu'on n'était pas expérimenté. Nous, les bénévoles, nous ne comprenons rien de ce travail. Daniel est chimiste, moi psychiatre, une autre est enseignante d'anglais. L'autre est infirmière en cardiologie, un autre retraité, un autre travaille chez Italgas.
l'Italgas, per cui capisci che...
Donc la coopérative est arrivée et a mis des limitations. Il tire d'un côté et nous de l'autre.
Noi tiriamo invece da quella sociale alla
e finalmente soit on se dispute entre nous e ce sarà stupido car le projet ferait faillite, soit on trouve un point de rencontre pour faire vivre cette belle expérience.
I progetti per il futuro?
Progetti per il futuro?
Déjà faire continuer cette belle expérience, l'agrandir, faire de plus en plus ce travail.
Fare sempre più questo lavoro che
de façon à ce que les patients entrent non pas en tant que patients, mais en tant qu'associés avec un rôle social. Il y a aussi la volonté de changer l'attitude du territoire par rapport à la santé mentale et de le faire par la proximité. Et cela, c'est une suggestion de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'il faut changer les préjugés selon lesquels le fou est dangereux et imprévisible, et donc seulement un problème pour les spécialistes. Et c'est comme ça qu'on crée l'isolement. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux de la proximité? On se rend compte que les fous ne sont pas comme on les imagine. Il faut considérer que l'épistémologie nous dit que si les 10% de la communauté changent d'attitude face à un problème, elle peut influencer de façon positive l'orientation de toute la communauté face à ces problèmes. Et donc, c'est là notre but. Et on essaye de recréer l'école territoriale où on parle de psychiatrie aux associés sur trois aspects. Par exemple, le sujet de médicaments. Moi, je suis psychiatre et j'en parle de mon point de vue. Puis il y a la proximité non professionnelle, comme par exemple celle de Daniele. Ceux qui sont là et qui connaissent les fous parce qu'ils sont en relation avec eux sans la médiation des livres et donc plus authentiques. Et qui te disent, j'ai l'impression qu'ils sont un peu endormis ou plutôt, ils ne s'aperçoivent même pas. Puis, il y a les patients qui te racontent comment ils vivent les médicaments. Et là donc, ce n'est plus une personne affectée par un handicap qui parle, mais l'expert d'un problème. Nous avons participé à des colloques où les patients étaient rémunérés comme moi je l'étais, 50 euros, car nous tous, nous étions des professeurs. Un autre objectif, c'est d'ouvrir une radio et d'agrandir cette expérience, et de la faire devenir une sorte de franchise. De faire en sorte que le café Basaglia devienne comme le McDonald's, même si d'un point de vue éthiquement différent. Et comme Che Guevara disait, 2-3 000 Vietnam, nous disons 2-3 000 café Basaglia.
À Paris aussi, alors.
Et pourquoi pas? Tu connais la guerre de l'eau de Cochabamba?
Si, si, assolutamente.
Oscar Oliveira, un ami qui était le leader de cette révolte, disait « Pour vous, les Occidentaux, la politique est l'art de gouverner. Pour nous, c'est l'art de trouver de nouvelles formes de relations des hommes entre eux et des hommes avec la nature. » Cela nous plaît. Et on aime aussi être un point de repère. Les comités pour le bien public, né dans les cafés Basaglia. Et encore, ils se donnent rendez-vous chez nous. Ainsi que les réunions d'attaque. À présent, nous sommes en train d'organiser le Med Pride. Jeudi, on a organisé une rencontre magnifique pour le préparer, qui ne sera pas un défilé, car ce n'est pas ce qu'on veut. Mais pendant plusieurs mois, on organisera avec des acteurs, des metteurs en scène, des chanteurs, des événements à travers le réseau.
Alors nous souhaitons au Café Basaglia et à ses membres de continuer à avoir le succès qu'ils méritent et de mettre racine après Buenos Aires, ici à Paris et bien ailleurs. Avant de vous quitter en musique avec un morceau de Syd Barrett, un grand merci donc à nos invités, Silvana Crescini, Ugo Zamburro et Stefano Cecconi, dont la fille Eleonore est ce soir avec nous en studio. Merci à eux donc d'avoir participé à notre émission. Comme tous les mois, cette émission sera rediffusée jeudi prochain à 8h. et vous pourrez dès demain la télécharger sur notre site envieditalie.fppradio.wordpress.com, site que nous sommes en train de remettre à jour. Site où vous trouverez des extraits supplémentaires que nous n'avons pas diffusés ce soir, parmi lesquels une partie de l'interview à Hugo Zamburro autour de son expérience en Argentine et le texte de la magnifique Balada para un loco que nous allons vous reproposer à la fin de cette émission sans coupure cette fois-ci. Sera-t-il une envie d'Argentine?
Vous pouvez à tout moment nous contacter avec vos envies et vos observations à l'adresse envieditalie.fppradio@gmail.com et à travers notre page Facebook. Pour terminer, un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Francesco Artuso à la technique, Irene Pancaldi qui nous soutient de loin ce soir, Veronica Collati qui n'a pas pu être là à cause d'une grippe, Salvatore Ursini de la Ville de Gens, FPP Radio qui nous permet d'être là et le site altriitaliani.net avec qui nous entamons une collaboration.
Alors ce soir en studio, Margherita Paoli
et Daniela Lanzuzini.
Non, Lanzuzini. Bon, vous disent au revoir et donc on vous donne rendez-vous au 5 mars prochain. À nouveau un premier lundi du mois pour une nouvelle émission à découvrir. Et donc on vous dit au revoir sur un morceau de musique tiré de l'album The Madcap Laughs. Même si on prononce mal, cela veut dire le rire du fou. Une chanson de Syd Barrett, premier chanteur visionnaire et un peu fou des Pink Floyd. Soyons fous, lançons le morceau. Merci. Au revoir, à bientôt.
I really love you and I mean you. The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you, yes I do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Thirteen bumping noses, dodge a tooth, the fins are luminous. Fangs all round the clown is dark below, the bowl is hiding all the sunlight's good for us. We're the fishes and all we do, but move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Hiding all the sunlight's good for.
for us, 'cause we're the fishes and all we do, the move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on and about you.
D'Italia.
Pour voir l'Italie autrement,
d'ici.
Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle uscite, tanto per fare.
Les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris, pluriel 106.3 FM.
I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, salivano su con noi nella vettura, felici correvamo in via Chadet, strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio vedere, cercando sotto i piedi un asse e un sasso, per non sporcar di sangue gli scarponi. Venite, vedete la macchina girare, dall'eco ammirate la testa, via volare. Eccoci bianchicci di cervello.